Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Ce sont les petites choses du quotidien qui parfois nous causent d'énormes tracas. Une machine à écrire qui reste bloquée, des CD qui ne donnent pas de musique, ou une pièce encombrée de souvenirs et qu'il est difficile de ranger. Ah, ça nous agace, ça nous rend fous. La ville Louvre, la maison de la radio, l'Adamant, Pierre-Rivière, la Normandie aussi, tant de moments, tant de visages, tant d'humanité et de talent chez Nicolas Philibert, cinéaste et fou d'histoire.
Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire.
L'esprit vient de parler!
Je peux vous affirmer que Belphégor n'est ni une apparition ni une fable.
Vous êtes envoyé pour venger ce qu'on a roué, pendu, envoyé aux galères. Vous n'avez plus rien.
Quand je cherche à restituer le passé comme cela, qu'est-ce que cette image appelle à côté d'elle, hors champ? Mais c'est le monde d'aujourd'hui, bien sûr.
Le reste est une question de patience et de temps.
Bonjour Nicolas Philibert.
Bonjour.
Vous êtes bricoleur?
Un peu, oui. Oui, oui. J'aime bien le bricolage. J'aime bien... aujourd'hui, on est dans un monde où... Dès qu'un objet ne marche plus, on le jette, on le met à la poubelle. Mais moi, j'aime bien rafistoler, oui. Oui, 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 oui.
Ah, c'est un risque énorme, ça. C'est que vous cumulez peut-être chez vous des tas d'objets à réparer dans le futur.
Pas trop, non. Mais je suis quand même quelqu'un qui garde les choses. Je garde des paperasses, des documents. J'essaie de ranger un peu à mesure, mais je bricole plus depuis longtemps quand même. Et puis je suis pas un bon bricoleur. Je sais me servir d'une pince et d'un tournevis, mais ça va pas plus loin.
C'est pas grave d'être un bon ou un mauvais bricoleur. Faut être bricoleur. Faut essayer. Faut tenter les choses.
C'est une détente de bricoler.
Mais oui, vraiment.
Oui. C'est ça vous change les idées. Ça vous permet d'échapper un peu au tracas, aux soucis finalement.
Et puis il y a cette idée d'accumulation. C'est beaucoup de choses que vous avez pu cumulé, entassé, parce que je ne vais pas rappeler l'ensemble de votre filmographie, Nicolas Philibert, mais s'il y a toutes les archives de tous vos films chez vous, ça doit faire beaucoup de documents.
Ça fait pas mal, oui. Je garde des coupures de presse, je garde... j'ai pu faire ce film qui s'appelle Retour en Normandie, au départ parce que j'avais conservé... C'est un film qui revient sur les traces d'un film pour lequel j'étais assistant 30 ans plus tôt, moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, un film de René Alliot. Et c'est parce que je suis tombé, en fouillant dans les tiroirs, en retrouvant scénarios, feuilles de service, quelques photos, etc., que j'ai eu envie de me lancer dans ce film. La plupart du temps, je travaille pas à partir d'archives ou de documents, mais dans ce cas-là, oui.
Ce projet était fou, hein. Celui de René Alliot et de toute l'équipe autour. Moi, Pierre Rivière, c'est une histoire au sens où c'est un fait du passé qui repose sur des documents historiques au milieu du 19e siècle, les années 1840. Pierre Rivière en Normandie qui égorge une partie de sa famille. Oui. Et toute l'étude qui en a été faite. Vous étiez assistant réalisateur à ce moment-là.
J'étais jeune assistant. J'avais très peu d'expérience comme assistant. Mais ça a été une expérience de cinéma et une expérience humaine très belle, très, très singulière. Pourquoi ? Notamment parce que René Alliot avait décidé de confier l'ensemble des rôles de paysans, non pas à des acteurs, mais à des ruraux, à des paysans de la région, là où le crime a eu lieu en 1835, à 20 kilomètres près. Donc dans cette région même, on est à l'été 1975. Aujourd'hui, interroger des gens dans la rue, tout le monde a envie de faire du cinéma, mais je peux vous dire que dans l'Orne, dans les villages de l'Orne, les hameaux de l'Orne, en 1975, l'idée de jouer dans un film ne serait venue à personne. Les paysans de la région étaient à des milliers de kilomètres de tout ça. Et il a fallu, au fond, convaincre des gens de mettre un costume, d'apprendre un texte, de jouer dans un film. Un film, par ailleurs, qui raconte quand même l'histoire d'un triple meurtre. C'est pas rien. Et du coup, ça a été pour moi une magnifique plongée dans le monde paysan que je ne connaissais pas. Mais pendant des mois et des mois, j'étais en lien avec ce monde, avec des gens merveilleux qui se sont engagés finalement dans ce projet de très belle façon.
Ce film, c'est dans les années 1970 à Aunay-sur-Odon, dans le Calvados, c'est pas très loin de la maison, c'est un site absolument sensationnel, le Calvados, mais revisité par cette histoire-là, le mieux est de laisser la parole à René Alliot.
Dans ce film, ce sont des paysans qui jouent les rôles principaux. Au fond, le film fonctionne comme une fiction, mais au fond, c'est un documentaire. Donc, nous avons tiré tout ce qui est dans le film des documents, les procès-verbaux de la justice, les témoignages des témoins et le texte de Rivière lui-même qui raconte 20 ans de la vie de son père et de sa mère. Et pour raconter ces faits, eh bien, il fallait à l'écran rendre sensible, restituer cette condition paysanne et autour de quoi ont joué les querelles du père et de la mère. Bah, bien sûr, ce n'est pas des gens qui ont l'habitude de tuer leurs parents, mais ce sont des gens qui vivent dans le monde rural avec ce que ça implique d'attachement, ce que c'est que le travail de la terre encore aujourd'hui, ce que c'est que l'attachement au bien, ce que c'est que défendre ce bien dans un travail qui est une lutte constante et sans cesse recommencée. Je pense, si vous voulez, qu'on cherche à restituer le passé comme cela, dans un film ou dans une image, qu'est-ce que cette image appelle à côté d'elle, hors champ? Mais c'est le monde d'aujourd'hui, bien sûr.
Et oui, le monde d'aujourd'hui, on est en 1976, quand René Alliot s'exprime à propos de ce film. Une des particularités de cette affaire du 19e siècle, c'est que Pierre Rivière, le criminel, a laissé un très long texte où il raconte sa vie, celle de ses parents. Cette histoire-là, c'est aussi une plongée dans le passé pour vous, Nicolas Philibert, au moment où vous êtes assistant réalisateur.
Ce qui est surprenant, c'est que ce jeune Pierre Rivière était considéré par l'entourage, les voisins, par tout le monde comme quelqu'un de un garçon un peu illuminé. On l'imaginait analphabète, un peu idiot, un peu niais. Et voilà que, en effet, après avoir commis ces crimes, il est emprisonné, il réclame de l'encre, du papier, et il va se mettre à écrire un texte magnifique, très 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 bien écrit, qui traduit une lucidité, une intelligence, des désirs de grandeur. Enfin, c'est très bien écrit, c'est très beau. Voilà. Et à travers ce film, d'une certaine manière, René Alliot cherche à... Vous savez, le monde paysan au cinéma, jusque-là, il est souvent campé, de ridiculisé. Les paysans sont dans les films bien souvent les gens qui font rire, qui sont un peu bêtes, qui sont un peu proches de leur des sous, etc. Et l'idée de René Alliot en faisant ce film, une des idées d'Alliot, c'est de parler tout à fait autrement du monde paysan.
Et de parler de la folie aussi, parce que dans l'affaire Pierre Rivière, il y a la question de l'aliénation, vous venez de l'évoquer. Est-il insensé? Est-il fou? Et c'est l'une des premières fois où, lors du procès, ces préoccupations-là apparaissent.
Oui, c'est ça. Le procès de Pierre Rivière en 1840, si j'ai bonne mémoire, est un procès dans lequel, pour la première fois, ou une des toutes premières fois, des psychiatres vont comparaître à la barre pour dire... Certains d'entre eux vont dire il est fou et donc irresponsable, il faut l'envoyer mettre en psychiatrie, et d'autres qui vont dire mais non, pas du tout, il n'est pas fou, et donc il est responsable, il faut le jeter en prison. Donc grand débat à ce moment-là, c'est un des premiers débats de cette nature. Aujourd'hui, ça arrive souvent, donc il y a une résonance très forte avec certains procès d'aujourd'hui. Et voilà, donc Esquirol et d'autres sont appelés à témoigner.
Ah ben, ça a un écho aussi avec votre œuvre, oui. Nicolas Philibert. Parce que ce film sur Pierre Rivière, cette affaire 1835, le procès 1836, la mort 1840, et vous, aujourd'hui, vous vous intéressez à la question de la manière dont on s'occupe des personnes qui sont considérées hors de la norme mentale. Et c'est un joli écho hein, dans cette réflexion. Qu'est-ce qui vous intéresse ici ?
En fait, ça remonte à... Déjà, quand j'étais étudiant, je commençais à j'ai fait une licence de philo. J'ai pas fait de longues études, mais j'ai fait une licence de philo. Et au cours de ces années universitaires, j'ai lu pas mal de choses. À l'époque, on parlait beaucoup d'antipsychiatrie. Je me suis intéressé un peu à tout ça. J'ai lu un peu des textes à ce moment-là. Par la suite, au moment du tournage de René Alliot, je vais rencontrer, mes pas vont rencontrer ceux de Michel Foucault, qui venait sur le tournage d'ailleurs, de temps en temps, à qui on a même confié un petit rôle, puis il a été coupé au montage.
Ah, vous avez coupé Foucault à la fin.
Alliot n'a pas souhaité garder... oui, parce que... que dire, j'ai envie de dire, c'est comme s'il y avait un corps en trop. Il jouait un magistrat et il n'était pas crédible en magistrat. Tout le monde reconnaissait et ne voyait que Michel Foucault. Donc ça marchait pas. Il était trop connu, trop célèbre, trop. Donc Alliot ne l'a pas conservé dans le film. Mais voilà. Donc je reviens à mes années d'étudiant. Je commence à lire un peu des choses sur la psychiatrie, l'antipsychiatrie, la prison aussi. Je vais un petit peu militer dans ce qui s'est appelé le groupe information prison. À l'époque, fondée par Michel Foucault et quelques autres. Et puis, en 1995, je vais tourner un premier film en psychiatrie, La moindre des choses, à la clinique de Laborde. Et c'est une expérience, j'ai envie de le dire comme ça, dont je ne suis jamais complètement revenu. Je suis resté très attaché à la psychiatrie, aux personnes qu'on y rencontre, à ces gens qui sont très souvent stigmatisés, regardés de travers comme pouvant être comme étant un peu inquiétant, pouvant faire un peu peur, comme étant trop singulier, ils rentrent pas dans les cases, etc. Et on rencontre là des personnes qui, oui, peuvent parfois nous inquiéter un peu, parfois même nous faire peur, qui nous dérangent, mais dans le bon sens du terme, qui nous amènent à réfléchir sur notre monde, sur nous-mêmes, sur la société dans laquelle on vit, sur la violence des choses. La psychiatrie, c'est comme une loupe, un miroir grossissant, tout y est un peu exacerbé. Et que dire ? On y croise des gens qui sont souvent hypersensibles et par là même très touchants. Et donc, depuis ce tournage à la clinique de Laborde, j'ai gardé un lien fort avec ces personnes, avec ce monde-là, oui.
Dans le cas de la clinique de Laborde, ça se trouve dans le Loir-et-Cher, il y a ce nom important hein, de ce médecin, Jean Houry, qui porte ce projet, parce que Laborde est particulière hein, dans cette histoire de la psychiatrie. C'est la psychothérapie institutionnelle, c'est toute une réflexion, oui. Une avancée sur comment s'occuper des malades.
C'est ça, c'est de la psychothérapie institutionnelle. C'est difficile de dire ce que c'est en trois mots, mais en gros, c'est un courant de pensée qui est né pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Saint-Alban, l'hôpital de Saint-Alban en Lozère. Où vont d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais vont se réfugier des gens comme Paul Éluard et quelques autres qui se cachent. Et vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on estime à 35-40 000 malades psychiatriques qui sont morts de faim. Dans les hôpitaux, les soignants ont pris la tangente, ont fui et ont laissé les patients crevaient sur place, si j'ose dire. À Saint-Alban, au fond, François Tosquelles et son équipe vont décider d'envoyer les patients chez les paysans de la région pour aider à récolter les patates, les carottes et les choux. Moyennant quoi, ils auront à manger pendant toute la guerre. Personne ne va mourir de faim. Mais à travers ça, c'est le regard qu'on porte sur les patients qui va commencer à profondément changer. Et tout d'un coup, ces gens-là vont être considérés, on va commencer à les considérer comme des personnes, comme des gens qui peuvent avoir apporté leur part dans le... qui sont des gens capables, comme tout un chacun. Et ça va tout changer. Et Jean Houry... a fait ses premiers pas comme psychiatre à Saint-Alban, lui aussi, de même que Lucien Bonafé, autre grand psychiatre. Et ensuite, il va fonder, au début des années 50, la clinique de la Borde, bientôt rejoint par Félix Guattari. Et cette clinique est toujours là. C'est fragile, c'est une psychiatrie qui essaye. C'est une clinique semi-privée, mais pour autant, c'est pas pour les riches. Le prix de journée est plus bas que dans le service public. C'est important de le dire parce que comme c'est dans un petit château, les gens pourraient vite penser que c'est un endroit pour les privilégiés, mais pas du tout. Et c'est un lieu dans lequel on essaye d'accorder du temps aux patients et de les considérer comme des personnes, sans les enfermer d'emblée dans leurs symptômes.
Il y a le regard porté par ce monde médical avec ce regard novateur, et vous avez cité les noms dont Jean Houry et d'autres, bien sûr. Et puis il y a le regard du cinéaste, vous, Nicolas Philibert, que vous portez dans cette série de 3 films consacrés à la folie, sur La Daman, Averroès et Rosa Parks, et La Machine à écrire et autres sources de tracas. D'ailleurs, c'est très intéressant d'avoir cet écho dans ces 3 films. C'est quel regard que vous portez, au sens où le cinéaste, qui réalise des films documentaires, s'efface un petit peu, et pourtant est présent. Comment ça se passe ici ?
Alors, ces films, ils ont pour peut-être principale caractéristique de ne pas être trop préparés à l'avance. C'est des films très improvisés, à tel point que les deuxième et troisième volets n'étaient pas prévus du tout. Au départ, mon souhait était de faire un film sur La Daman. Je dis bien sur La Daman, et pourtant, je ne fais pas des films sur. Je ne fais pas des films à partir d'un discours, à partir d'un programme, à partir d'un plan de travail, à partir d'un vouloir dire, du désir de laisser un message, ou à partir d'une intention qui serait trop surlignée. Mes films sont des films en psychiatrie. Ces 3 films sont des films en psychiatrie, plus que sur la psychiatrie, qui partent à la rencontre des personnes qui sont là, des passagers de la Daman, de l'équipe soignante, etc. J'ai entendu parler de ce lieu, ce centre de jour qui est sur la Seine.
C'est une péniche, la Daman.
C'est une sorte de péniche. C'est pas une péniche reconvertie. C'est un lieu qui a été, c'est un bâtiment flottant qui a été conçu et imaginé par des architectes spécialisés dans les bâtiments flottants, mais qui ont travaillé pendant 2 ou 3 ans d'une manière assez régulière avec des soignants et des patients du secteur Paris-Centre. De là, de cette rêverie est né ce lieu qui est très beau et qui donne, quand on y est, le sentiment d'être tout à la fois au cœur de Paris et en même temps ailleurs. C'est très beau, c'est très apaisant, il y a cette présence de l'eau, etc. Bref, mon idée de départ, c'est de faire un film dans lequel il s'agirait pour moi d'aller à la rencontre de celles et ceux qui sont là, et d'inventer le film à partir de ces relations qui vont se tisser petit à petit. Donc sans a priori, sans... Oui, il s'agit, je le dis souvent comme ça, j'essaye de m'abandonner au hasard des rencontres.
et dans La machine à écrire et autres sources de tracas, Nicolas Philibert, vous partez à la rencontre de personnes qui ont des soucis, des petits soucis matériels. Et dans le cas de Muriel, son souci est qu'elle n'arrive plus à écouter ses CD sur sa chaîne.
Je crois qu'ils sont trop rayés en fait.
Non, ils sont pas rayés, ils sont absolument pas rayés.
Bah, ouais, il y a une petite rayure quoi.
Bah, il y a une petite rayure, mais c'est Janice qu'il faut qu'il passe. Parce que c'est ma préférée.
Vous l'écoutez en boucle?
Non, j'écoute en CD.
Non, mais... Vous l'écoutez tout le long de la journée?
Non, quand même pas. Je vais pas la faire crier, quand même. Vous voyez, ça marche plus.
Ah.
Oh, bah ça marche.
Oh, bah alors?
Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez rien fait.
Bah, Walid, il a un petit peu nettoyé le CD, là.
Ah ouais, nettoyer les CD, j'y ai pas pensé.
Peut-être je le nettoie avec un mouchoir. Normalement, faut le faire avec un tissu spécial.
Ah ouais, d'accord. Des chiffonnettes.
Ouais, c'est ça.
Oh, ma chérie. Allez, là, vous comprenez, dans ce silence blanc,
c'est ce que vous
on a la tête qui frappe.
Dans Machine à écrire et autres sources de tracas, Nicolas Philibert, vous nous présentez Muriel. On se laisse complètement embarquer, prendre par ce film formidable avec Muriel qui a cette réplique exceptionnelle quand on lui dit « Vous écoutez votre CD en boucle ?» Elle répond « Non, je l'écoute sur CD ». Ça, c'est formidable. Elle est très touchante, mais il n'y a pas que ça ici. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, on s'intéresse à l'histoire et on sent bien que l'histoire d'une vie se résume souvent dans une pièce. Et on le voit ici avec Muriel, mais avec les autres personnes qui interviennent. Il y a comme un condensé de vécu dans ces petits espaces.
Oui, c'est comme si... oui, les espaces disent beaucoup de chacun d'entre nous et de ces personnes en particulier. Muriel, c'est un... Chez elle, c'est... une pièce qui fait peut-être 8 mètres carrés, 9 mètres carrés grand maximum, mais c'est très dépouillé, les murs blancs, un lit, une table, une chaise, une télé, un lecteur CD qui tombe en rade, et voilà que tout s'effondre. Alors, ces garçons qui viennent réparer, qui viennent essayer de réparer, qui viennent chez tel ou tel patient quand quelque chose est cassé ou quand il faut aider à monter un meuble ou déboucher un évier, que sais-je, et aider. Il s'agit au fond d'être, à travers ça, d'aider chacun à retrouver un peu son espace, à retrouver, à recréer un lien avec son propre espace et avec soi-même. Et a fortiori, et avec les autres aussi. On pourrait dire, venir réparer le lecteur CD de Muriel, ça n'est peut-être qu'un prétexte. Et en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Parce que pour elle, c'est une nécessité. Il y a quelque chose de vital. C'est comme cette machine à écrire qui tombe en carafe chez Patrice. Patrice, c'est un homme qui, tous les jours, sur l'adamant, écrit un ou deux poèmes en alexandrin à la main, puis de retour chez lui, se met devant sa machine à écrire et tape ce nouveau, le poème ou les poèmes du jour. Et voilà qu'un jour, sa machine tombe en panne, se bloque, il fait appel à ses garçons, ses soignants. Ce sont des soignants. L'un est infirmier, l'autre ergo, le troisième éducateur spécialisé. Bref, ils viennent pour essayer de réparer sa machine à écrire. Mais c'est des trentenaires, ils n'en ont jamais vu de leur vie. Ils vont se pencher comme deux chirurgiens sur cet objet. C'est même presque un peu burlesque. Et que dire, cette machine pour Patrice, mais c'est essentiel. S'il ne peut plus, ça fait 20 ans que c'est très ritualisé, l'écriture, le fait de taper à la machine, c'est très rituel. Si tout d'un coup cette chose-là n'est plus possible, on peut imaginer qu'il s'effondre complètement. C'est comme si cette machine faisait partie de lui-même. C'était un prolongement de lui-même.
8000 poèmes, hein, je crois que c'est ça. C'est une quantité énorme qu'il garde dans des pochettes qui sont conservées. Ses archives sont là. Et vous le dites bien, Nicolas Philibert, il y a ce contraste saisissant entre cette jeunesse qui vient réparer une machine, qui n'a jamais vu une machine à écrire en vrai, et qui utilise un téléphone portatif pour avoir de la lumière, pour essayer de comprendre. C'est ce jeu-là aussi. Et dans votre démarche, vous faites des films pour aujourd'hui et pour demain, avec un écho toujours sur le passé, parce que le passé, on ne peut pas s'en départir. Oui. Mais vous faites un document historique qui servira dans le futur pour comprendre. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur une œuvre de compréhension, une œuvre esthétique, je le dis aussi, parce qu'on passe un moment particulier. Et puis, il y a un document. Vous avez ce sentiment-là d'écrire quelque chose. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'histoire du temps présent. Mais enfin, vous laissez une trace d'un lieu, d'une personne à un moment.
Oui, mais je ne pense pas trop à ça. Parce que si tout d'un coup, il y avait cette intention d'une manière trop volontariste, au fond, ça serait, pour moi, ça serait trop encombrant. J'essaye d'être le plus, de pas trop penser à cette dimension-là. Et par ailleurs, en fait, la caméra enregistre les choses, mais une caméra, elle change le réel. Faut avoir ça en tête quand même. Une caméra documentaire, elle modifie le réel filmé. C'est plus tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui se passerait si j'étais pas là? Je vous donne un exemple. Le Averroès et Rosa Parks, le deuxième volet de ce triptyque que je viens de terminer en psychiatrie. C'est un film qui est basé sur des entretiens entre patients et soignants, et souvent ces entretiens sont, je les ai filmés dans la longueur, etc. Mais on peut imaginer que si je n'avais pas été là pour les filmer, ils n'auraient peut-être pas été si longs. Je pense que la caméra du coup a porté les choses, a porté le désir des patients de témoigner de leurs difficultés, de leurs angoisses, de leurs peurs. Les soignants, la caméra les a portés aussi. Voyez, ça change un peu les choses.
Oui, oui. Ce que vous évoquez là, Nicolas Philibert, effectivement, correspond aux interrogations du scientifique, de l'historien, de l'historienne, comment, par le regard que l'on porte et par le biais des sources, on peut transformer son objet d'étude. C'est une vraie question, ça. Oui. Et d'ailleurs, toute la réflexion qu'on peut avoir autour de son objet d'étude peut prendre différentes formes. On a parlé tout à l'heure de ce film Pierre Rivière de René Alliot. Très bien, mais ce film correspond à un travail scientifique mené par Michel Foucault. Michel Foucault qui a été coupé dans le film, et nous, dans le cours de l'histoire, on ne le coupe pas.
En principe, dans un hôpital, ne devraient s'exercer que des rapports de connaissances. Et en fait, ces rapports de connaissances sont entièrement sous-tendus par des rapports de pouvoir. Et la situation de l'infirmier, surtout de l'infirmier psychiatrique, est très très ambiguë, parce que d'un côté, il y a en quelque sorte le modèle du personnage médical, et l'infirmier peut très bien n'être qu'un relais de ce pouvoir médical, être le petit médecin qui surveille, non pas simplement au moment de la visite, mais du matin au soir et du soir au matin, et qui par conséquent peut rendre, s'il reprend en effet à son compte le personnage médical, peut rendre la vie du malade mental encore plus infernale. Bon, mais d'un autre côté, l'infirmier sait très bien, et il éprouve ça quotidiennement, qu'il est l'objet des ordres médicaux, presque autant que le fou. Le malade et l'infirmier sont ceux sur quoi s'exerce le pouvoir médical. De sorte que l'infirmier a toujours une certaine tendance à rejoindre le personnage du fou, du malade mental, rejoindre en tout cas le camp de ceux sur qui s'exerce le pouvoir médical.
Michel Foucault sur France Culture en 1972, l'infirmier peut rejoindre le regard du fou et le cinéaste, Nicolas Philibert.
On est tous enfermés, On est tous aliénés d'une certaine façon. C'est un peu ce que Michel Foucault évoque dans cette archive. Alors oui, sans doute, l'infirmier en psychiatrie est un agent du pouvoir, c'est un relais, mais je dirais, c'est peut-être pas toujours aussi carré, aussi parce que aujourd'hui certains infirmiers essayent malgré tout, dans un contexte très très compliqué, très dévasté, très très abandonné dans lequel se trouve la psychiatrie, certains essayent quand même donner du temps, de donner du sens à ce qu'ils font, un autre sens que simplement celui d'incarner la norme, d'essayer d'être à l'écoute, d'essayer d'apporter un peu d'humanité. Mais c'est compliqué, on le voit bien aujourd'hui. Hein, il y a même une profonde un manque d'attractivité très très profond pour ce travail d'infirmier en psychiatrie, quand il s'agit de quand on ne peut plus exercer dignement cette profession, qu'on ne peut plus qu'on est assailli par les tâches administratives, les algorithmes, les tableaux Excel, etc., tout ce qui normatise, écrase, tout ce qui est de l'ordre du quantifiable et qui vient écraser les relations humaines, le peu de relations humaines qui restent dans les hôpitaux psychiatriques, quand on ne peut plus travailler dans ce sens-là, qu'on ne voit plus dans le sens de sens dans son travail, alors on finit par déserter, on est remplacé bien souvent par des intérimaires qui ne vont pas s'investir de la même manière, qui sont souvent mieux payés, donc ça crée des situations de profond malaise. Oui.
C'est ici qu'on peut avoir toute une réflexion sur le regard porté sur le passé, parce que vous l'avez évoqué, cette histoire de la psychothérapie institutionnelle avec François Toscaïès, avec tant d'autres gens, avec les travaux de Michel Foucault sur l'histoire de la folie, et malgré tout demeure encore aujourd'hui cette incompréhension sur ce monde-là. Bien sûr, les hôpitaux d'aujourd'hui, les hôpitaux psychiatriques, ne sont plus les asiles du passé. Oui. Mais par le regard porté par la société, il y a encore quelque chose qui dérange, pour le dire pudiquement. Oui. Dans un film tel que vous le proposez ici, avec La machine à écrire et autres sources de tracas, mais tous ces films consacrés à la folie, il y a cette main tendue que vous nous donnez, alors cette main tendue ou plutôt ce regard que vous nous offrez.
Il y a, oui, cette idée que les patients sont des gens qui sont un peu inquiétants, qui peuvent déranger, qui sont souvent aussi regardés à travers de plus en plus par le prisme de la violence. Vous savez qu'aujourd'hui, on revient aux contentions, c'est-à-dire que il y a des patients qui sont attachés sur leur lit des journées entières, des semaines entières, et ça c'est faute de moyens humains. S'il y a plus de personnel pour on attache les gens, on est en train de faire marche arrière, c'est épouvantable.
Je veux vous parler de l'arme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur les images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils de pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as les donateurs juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. Mon père ne dort plus sans prendre ses calmants. Maman ne travaille plus sans ses excitants. Quelqu'un leur vend de quoi tenir le coup. Ah, ces électrons bombardés de protons. Le rythme de la ville, c'est ça mon vrai patron. Je suis chargé à tous ensemble.
C'est François qui reprend la bombe humaine de Téléphone dans votre film Nicolas Philibert sur l'Adamant et aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Ludovico Auger. Nicolas Philibert, fou d'histoire, cette bombe humaine d'ailleurs c'est magnifique hein, de voir cette humanité qui est à l'intérieur des films que vous réalisez. Avec la complexité du jeu à travers de l'ensemble de votre œuvre entre les lieux, oui. Il y a la ville Louvre, il y a la maison de la radio qui, quelque part, parfois, peut ressembler à certains espaces que vous évoquez dans votre triptyque de la folie.
Oui.
Vous confirmez, vous l'avez senti en venant ici.
Bah oui, c'est formidable ici, cette maison ronde. On est chez les fous ici. C'est magnifique.
Mais oui, mais c'est cette folie aussi qui permet la création. Il y a de cela dans l'humanité qui transparaît à travers de vos films, c'est de voir comment il est très vite difficile de savoir où nous nous trouvons, parce que on oublie en regardant ces scènes, et je pense notamment à tous ces petits tracas, ces réparations, ouais. La machine à écrire, qu'en fait, nous sommes dans un monde censé être à part, qui en réalité est complètement notre monde. Et c'est ça, oui. C'est ce jeu-là qui est très très beau et très touchant.
Ben, au fond, j'essaye de déconstruire certains clichés au fond et peut-être d'estomper cette frontière, soi-disant frontière, si frontière il y a, entre ceux qui seraient les gens qui seraient prétendument normaux et ceux qui ne le seraient pas. Il s'agit d'interroger un peu cette question-là, cette notion bien complexe. Mais en effet, nous avons beaucoup en commun entre les gens qui sont qui ont des troubles psychiques et les autres. Nous appartenons à la même espèce, à la même humanité. Et bien souvent, quand je tournais sur l'Adamant, j'ai passé des journées là à parler avec les uns et les autres. J'étais heureux de ça et je repartais chez moi. Je traversais la ville. La ville était extrêmement agressive. Je me disais, mais c'est pas sur l'Adamant qu'on trouve les gens les plus fous, quoi. La société est vraiment très très très.
Une société de rejet, hein. On le voit bien. Non, mais vous avez raison. Le rejet de ceux qui sont considérés comme fous, de celles qui sont considérées comme folles, mais le rejet des autres, l'étranger, oui. Le différent,
oui.
Et parfois aussi oui. Le rejet des personnes âgées.
Je pense que je me serais mal exprimé si je n'avais pas en particulier, décrivant la société où nous vivons, laissé entendre que cette société n'ordonne pas justement les âges de la vie selon une échelle et que dans notre société, la vieillesse est méprisée. Et parce que la vieillesse est méprisée, la vieillesse est très souvent l'occasion, effectivement, d'un déclin, d'une déchéance. En sorte que beaucoup d'observations vérifient cette déchéance. Seulement, je crois qu'il faut les contrôler par des observations empruntées à l'histoire ou à l'ethnologie qui montrent d'autres possibilités. Il faut aussi interpréter la manière dont on tire de renseignements statistiques montrant qu'un déclin est général à un moment donné de l'observation. A-t-on le droit d'en conclure qu'il est normal, qu'il est normatif, ou même qu'il est universel à d'autres moments de l'espace ou du temps. C'est là ce qu'il faut mettre en question.
Un philosophe qui rappelle combien il est important d'emprunter à l'histoire, ce philosophe qui s'exprime en 1969 dans les matinées de France Culture, c'est Michel Philibert, c'est votre père.
Oui, philosophe. Je suis très ému tout d'un coup d'entendre la voix de mon père. Vous m'avez réservé une belle surprise ce matin.
C'était quoi les échanges en famille autour de l'histoire? On en parlait beaucoup d'histoire à la maison?
Mon père nous racontait des histoires. Mon père, nous, quand on était gamin, on dînait souvent avant les parents quand on était petit. Et mon père ouvrait un livre, Victor Hugo, lisait des poèmes. C'était pas tant l'histoire que de la littérature. Et on dînait, on mangeait notre soupe en écoutant mon père raconter, réciter, lire. Et j'ai gardé de ces moments-là un souvenir à la fois ému et un peu vague, parce que c'est loin maintenant. Mais est-ce qu'on parlait de l'histoire? Mon frère aîné était plus versé que moi. Moi, je m'intéressais à la géographie, plus qu'à l'histoire, beaucoup plus. Petit, je n'aimais pas beaucoup l'histoire. Je veux pas rejeter ça sur les enseignants, mais c'est quand même, bien sûr, on sait tous que quelquefois un bon enseignant vous embarque et parfois pour la vie. Alors moi je me souviens qu'en CE1 et CE2, j'étais avec un instit qui gardait les élèves 2 années de suite, et il avait rien trouvé de plus intelligent que concernant l'histoire. La première année, il faisait cours sur les leçons paires, et la deuxième année, les leçons impaires.
C'est-à-dire?
Eh ben, la première année, il nous parlait des Romains, et puis on passait directement à Jeanne d'Arc, et puis et l'année d'après, on faisait les intervalles.
Parce que c'était numéroté dans le manuel. Ouais,
voilà.
C'est ça,
oui.
Ouais.
Oui. Oh. Sauf que mes parents m'ont changé après cette première année, on m'a changé d'école. Du coup, je n'ai eu droit qu'aux leçons impaires, donc j'ai des lacunes. Ne m'interrogez pas, s'il vous plaît,
sur les impairs ou sur les pairs.
Parce que je suis épouvantablement inculte en termes d'histoire du point de vue scolaire. Après, plus tard, j'étais, si j'ose dire, rattrapé par l'histoire en grandissant un peu, de par la situation de ma famille.
Parce qu'on parle de votre père, on n'a pas parlé de votre mère, Jeannine.
Oui. J'ai grandi dans une famille protestante. Mon père était philosophe, professeur de philo, proche de Paul Ricoeur, de Georges Canguilhem. Petit, j'allais à l'école du dimanche. On allait à l'école du dimanche. C'est le catéchisme chez les protestants. On nous lisait la Bible, on nous expliquait un peu la Bible, et voilà. Et puis, vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à comprendre que j'avais un autre héritage familial. À savoir que je venais d'une famille juive. Ma mère est juive. Je parle d'elle au présent parce que pas plus tard qu'hier, nous avons fêté ses 104 ans.
Wow.
Elle est très fatiguée aujourd'hui, mais voilà, elle est toujours là. Et donc j'ai commencé à comprendre un peu confusément que j'avais un autre héritage. Côté maternel, c'était une famille juive. Ma mère s'appelle Jeannine Veil. Son père, André Veil, était un petit industriel de Lorraine et qui faisait du textile. Et c'était aussi un homme qui composer de la musique pour son propre plaisir. Voilà. Et puis, bien sûr, la guerre est arrivée. Avant ma naissance, je suis né en 51. La guerre est arrivée, mes grands-parents ont dû, comme des centaines de milliers de gens, prendre, s'enfuir, quitter la Lorraine, partir, quitter les Vosges et la Lorraine, partir vers la zone libre, se cacher, etc., jusqu'au moment où la sœur de ma mère a été arrêté en 44 et déporté à Auschwitz. Elle en est revenue. Vous savez, dans la famille, on n'en parlait pas. On a mis très longtemps à en parler. Il se trouve que le frère de ma mère, c'est Antoine Veil. Antoine Veil qui va devenir le mari de Simone Veil. Donc Simone Veil, c'est ma tante. Et elle, Simone, elle a commencé à parler. Elle a, c'est elle, avec d'autres, qui ont ouvert, pendant tellement longtemps, celles et ceux qui sont revenus d'Auschwitz n'ont pas osé parler, étaient dans la culpabilité, pourquoi est-ce que nous sommes revenus, etc. Et puis, comme l'a dit beaucoup Simone, personne ne nous écoutait. Elle disait ça, elle l'a beaucoup dit. Mais c'est elle qui a commencé à parler de tout ça et à, au fond, impulser quelque chose. Mais quand j'étais enfant, y compris dans la famille, on n'en parlait pas beaucoup. C'est ma grand-mère qui a commencé à me raconter, quand j'étais adolescent, elle m'a raconté un peu l'histoire familiale, ce qui s'est passé. Voilà, donc d'une certaine manière, j'ai été en somme rattrapé par l'histoire. Et au fond, je suis quelqu'un qui, je ne me sens pas complètement protestant. Aujourd'hui, je ne crois plus du tout en Dieu. Mais je ne me sens pas complètement protestant. Je ne me sens pas tout à fait juif non plus. Je suis tombé l'autre jour sur une phrase de Kafka que cite Delphine Horviller et qui dit « Qu'ai-je de commun avec les Juifs ?» C'est tout juste si j'ai quelque chose de commun avec moi-même. Et je me sens un peu comme ça, je me sens un peu entre deux. Je me sens ni complètement ici, ni complètement là, et encore un peu ailleurs. Et c'est comme ça, j'en ai pris mon parti. C'est peut-être même une richesse d'être un peu comme ça, comme un oiseau qui ne sait pas trop d'où il vient.
Et peut-être où il va, mais tout en sachant qu'il y a toutes ces histoires. Parce que ne pas savoir trop où l'on est, où l'on se trouve, ça n'efface pas tout ce passé. Il y a une démarche chez vous, Nicolas Philibert, au moment où votre grand-mère vous parle de vous-même, aller regarder dans les livres, essayer de chercher, essayer de creuser, de s'intéresser à ça. Est-ce que cette histoire-là, au sens histoire, matière scientifique, discipline, d'écriture du passé, ça a pu éclairer des aspects de votre propre existence, de votre vécu?
Oui, sans doute un peu. J'ai lu beaucoup de choses sur ce moment de l'histoire, ce moment si tragique, la Deuxième Guerre, la déportation. J'ai lu beaucoup de récits, de témoignages, de ici ou là des textes d'historiens, d'historiennes, Annette Wieworka, Sylvie Lindeberg qui s'intéresse à travers le certains films à cette question-là, qui a écrit un livre sur Nuit et brouillard magnifique, puis un livre sur le procès de Nuremberg. Mais j'ai lu beaucoup de récits, entre des Lee Wiesel à Charlotte Delbo, et bien d'autres, Marceline Loridan, etc. C'est quelque chose... dès que paraît un livre sur ces questions-là, je l'achète, je le lis, c'est, je laisse tomber tous les autres bouquins pour lire ça. C'est curieux parce que aujourd'hui encore, dans la famille, on n'en parle pas beaucoup. Chacun, je pense, a un rapport intime à tout ça, mais entre nous, on n'arrive pas à en parler. La sœur de ma mère qui a été déportée et qui est revenue, il y a bien longtemps, quand j'étais un jeune cinéaste, m'a un peu tendu la perche. Elle m'a laissé entendre que si j'avais envie de... La faire parler, l'enregistrer, la filmer, elle y serait favorable, ou en tout cas consentante, elle serait d'accord. Et je n'ai pas réussi à saisir cette perche-là. C'était au-dessus de mes forces, je n'ai pas réussi à faire ça.
C'est la question que j'allais vous poser, Nicolas Philibert, parce que sa propre vie est parfois un objet, sa propre histoire et l'histoire de ceux, de celles qui nous entourent aussi, c'est quelque chose dont la question se pose, mais dont vous n'arrivez pas. J'entends ça, c'est comme une limite ici.
Oui, oui, oui.
Avec la volonté de le faire à un moment ?
Oui, oui, ça m'a traversé plus d'une fois, bien sûr, mais je ne me suis jamais senti suffisamment prêt pour franchir ce pas-là, en tout cas.
Ben peut-être parce que, aussi dans votre démarche de cinéaste, il y a cette distance et cette proximité. C'est un paradoxe sans nom que vous arrivez à créer au moment où vous tournez le film avec les personnes qui sont là, mais que ici, cette distance n'est plus possible. Cette famille, c'est votre famille.
Oui, ben oui. C'est quand on est trop proche, peut-être, il faut... Ça, c'est un peu... Oui, 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 c'est ça. Oui.
Avec toujours ce regard que vous portez, et moi je le dis, hein, que vous offrez, au sens où vous nous offrez quelque chose, c'est votre regard, mais en soi, c'est une richesse sans nom. Sur la folie, ce triptyque est terminé. Est-ce qu'il y a toujours une fin à cette démarche, parce que on l'a bien dit, depuis Pierre Rivière, en passant par les autres films sur la folie, vous arrivez à ce triptyque, mais il y a ce lien constant, donc ça va revenir un moment. Il y aura de nouvelles interrogations sûres.
Ben écoutez, hier soir, j'étais à Orléans, j'ai présenté ce dernier volet du triptyque en avant-première, La machine à écrire et autres sources de tracas, et les spectateurs ont commencé à dire, mais attendez, vous n'allez quand même pas vous arrêter là, il faut faire aussi quelque chose sur les familles, sur les aidants, sur s'il vous plaît, continuez, restez en psychiatrie. J'ai dit, écoutez, en somme, vous voudriez que j'ajoute un quatrième volet à ce triptyque. Et quelqu'un a dit, mais écoutez, les trois mousquetaires, ils étaient bien quatre.
Ben bah voilà.
Donc, alors, c'est une question. Est-ce que je vais arriver à en sortir? Je ne sais pas. Toujours est-il que je suis très attaché à ce monde-là, ce travail, ce champ-là, ces êtres cabossés, ces cabossés de la vie qui avancent dans la vie quelquefois comme sur un fil, comme des funambules. Je ne sais pas encore. Je pense à cette phrase que je cite souvent d'un cinéaste producteur qui s'appelait André Labarthe et qui disait: j'ai fait le film, il ne me reste plus qu'à l'inachevé.
Eh ben voilà.
Voilà.
Ouais, il ne reste plus qu'à l'inachevé. Et moi, je reprends les mots qui vous ont été donnés récemment. S'il vous plaît, Nicolas Philibert, continuez avec ce triptyque sur l'Adamant, hein, l'Ours d'Or à Berlin, bien sûr. Et puis, à Véroès et Rosa Parks. Et là, La machine à écrire et autre source de tracas. Film merveilleux. Merci vivement, Nicolas Philibert, d'être venu dans le cours de l'histoire.
Merci beaucoup, merci, merci.
Vous avez regardé chez vous ce soir le film ?
Quel film ?
Le film que vous tournez ici.
Ah, peut-être que je regarderai ce qu'on a fait aujourd'hui, oui.
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 Oh, c'est intéressant. Hein.
Et alors, ce qui est là sur la table de nuit?
C'est mes rêves.
C'est vos rêves.
Comment savoir si Christine de France fut une femme puissante? Sur le site internet du département de Savoie, il existe une rubrique ayant pour but de valoriser le patrimoine de la région. C'est dans ce cadre qu'une notice intitulée « Une femme puissante » a été consacrée à Christine de France. Née en 1606, Christine était en effet issue du gratin de l'aristocratie française, puisqu'elle était la fille d'Henri IV et de Marie de Médicis. En 1619, elle épousa Victor Amédée Ier, duc de Savoie et prince du Piémont, qui régna de 1630 à 1637. Après sa mort, Christine devint la régente du duché au nom de ses fils. Mais son pouvoir fut alors très contesté par ses beaux-frères, Maurice et Thomas de Savoie. Étant donné qu'à cette époque, dans les milieux princiers, les querelles de famille avaient toujours des implications politiques, les rivalités entre Christine et ses beaux-frères eurent des conséquences très importantes au niveau européen. En 1635, pour affaiblir les Habsbourg, qui régnaient alors sur l'Espagne et les Pays-Bas, Richelieu engagea la France dans la guerre de 30 ans, en s'alliant aux princes protestants. Mais dans le même temps, il apporta son soutien à Christine, qui était aussi la sœur de Louis XIII, contre Maurice et Thomas de Savoie, ralliés aux Habsbourg. Une véritable guerre civile éclata alors en Savoie entre les deux camps. Le palais de Turin, où vivait Christine, fut même bombardé par les troupes du prince Thomas en 1639. Christine parvint à se maintenir au pouvoir grâce au soutien de Richelieu, puis de Mazarin. Elle fut ainsi placée dans la dépendance du roi de France, ce qui amène à s'interroger sur le qualificatif de femme puissante dont on la gratifie aujourd'hui. Il serait préférable, à mon sens, de parler d'une femme résistante, car bien qu'elle ait été prise dans l'étau parisien, elle s'efforça constamment de maintenir l'autonomie de la Savoie face à ses puissants voisins. C'est en affirmant son rôle d'intermédiaire politique qu'elle parvint à transformer le territoire au destin incertain qu'était la Savoie-Piémont en un royaume dont le rôle fut important dans l'histoire de l'Europe à partir du XVIIIe siècle. Lorsque son fils, Charles-Emmanuel II, devint officiellement duc de Savoie, Christine conserva son influence politique en dirigeant un conseil qui réunissait les plus hauts personnages de la cour de Savoie. Au sein de cette instance, c'est elle qui chargea le marquis de Pianezza de défendre la foi catholique contre les Vaudois. Cette communauté religieuse, fondée au XIIe siècle à Lyon par Pierre Valdès, disposait d'une forte autonomie en Savoie, ce qui était perçu comme un danger par les autorités du duché. En 1655, le marquis de Pianezza décida de mettre un terme à cette dissidence religieuse en convertissant les Vaudois par la force. La répression sanglante, qu'on appelle les Pâques vaudoises, fit de nombreuses victimes, suscitant l'indignation des protestants dans toute l'Europe. Avant de célébrer les femmes puissantes, il faudrait donc s'interroger sur la signification de cette puissance. L'exemple de Christine de France montre en effet qu'il ne suffit pas qu'une femme exerce le pouvoir d'un homme pour que celui-ci soit moralement plus acceptable.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Jeanne Coppet, Lily Corner, Mathieu Copal, Tom Undenstock et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.